France Culture.
Il y a un peu moins de 10 jours, le 4 juin dernier, Éric Lombard, ministre de l'Économie, a annoncé la suspension de ma prime Rénov', c'est, vous le savez sans doute, le principal mécanisme d'incitation à la rénovation énergétique et thermique des logements mis en place par l'État. Pourtant, à première vue, ma prime Rénov', c'est d'abord l'histoire d'un succès, ou en tout cas d'un engouement. Le nombre de logements rénovés avec ces subventions a triplé en début d'année et près de 2 millions de ménages en ont bénéficié depuis sa mise en place en 2020. C'est aussi une cible claire, le bâtiment, soit le premier consommateur d'énergie en France, 16% des émissions de CO2 et 4 millions de logements considérés comme des passoires thermiques. Des chiffres à modifier donc profondément pour atteindre l'objectif de neutralité carbone d'ici 2030 et surtout si l'on veut réduire le nombre de personnes vivant en situation de précarité énergétique, soit 12 millions d'individus en France en 2025. Seulement voilà, dans un contexte de restrictions budgétaires, force est de constater que les moyens ne sont pas tout à fait à la hauteur des ambitions. 2 millions de rénovation depuis 2020, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il en faudrait en réalité entre 500 000 et 1 million par an pour atteindre les objectifs. Ce n'est pas assez d'argent non plus. Après les 3,1 milliards d'euros qui lui étaient consacrés en 2024, la subvention versée par l'État ne s'élèvera plus qu'à 2,1 milliards d'euros en 2025. Par ailleurs, l'afflux de demandes qui a provoqué encombrement et difficulté à répondre du côté de l'offre témoigne d'un problème de dimension, de calibrage et de gouvernance de la chose. Et c'est ainsi que le dispositif s'est retrouvé suspendu donc du 1er juillet au 15 septembre. Une annonce qui a provoqué une colère assez conséquente. La Fédération française du bâtiment se réunit aujourd'hui pour décider des mesures à prendre et ça va gronder, a prévenu son président Olivier Salleron. Sept collectivités territoriales du Grand Est ont écrit au ministère pour alerter sur l'épuisement de leur enveloppe budgétaire. Les ménages sont inquiets, les associations d'aide au logement aussi, car des logements non rénovés sont souvent des logements qu'on ne peut pas louer et qui restent donc vacants. Des tensions qui illustrent sans doute les trop grandes ambitions du dispositif, mais surtout l'étendue du système économique qu'il implique, à la fois instrument de relance, puisque le gouvernement misait sur un très grand nombre de créations d'emplois d'ici à 2030 pour assurer ces rénovations et de pilotage environnemental. MaPrimeRénov', c'est aussi un objectif environnemental et social, et tout cela illustre la difficulté des politiques de rénovation énergétique dont on ne sait pas au juste mesurer les conséquences, ni la façon véritablement de les coordonner. Bref, c'est la hantise des économistes, celle d'un marché imparfait, un marché que nous allons donc décortiquer jusqu'à 15h dans cette émission programmée et préparée par Bruno Barada, réalisée par Françoise Lefloc et mise en onde aujourd'hui par Ludovic Auger. Alors pourquoi avoir choisi cette politique d'incitation en première instance? Quel bilan en tirer et quelles solutions trouver pour un dispositif qui a subi 14 réformes en 5 ans? Comment donner de la stabilité et de la visibilité à tous les acteurs concernés? Pour répondre à toutes ces questions, 4 invités sont autour de la table ronde d'actualité d'Entendez-vous l'écho. Mathieu Glachand, vous êtes professeur d'économie à Mines Paris PSL. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Coralie Robert, vous êtes docteur en sociologie et chercheuse associée au Centre de recherche sur l'habitat et membre du laboratoire architecture, ville, urbanisme, environnement à l'Université Paris-Nanterre et vous êtes avec nous à distance depuis les studios d'ici Loire-Océan à Nantes grâce à Alexandre Bucois qui assure ce duplex et je l'en remercie. Louis-Gaëtan Giraudet, vous êtes directeur de recherche à l'École nationale des ponts et chaussées et au CIRED, le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et enfin Anne-Gaëlle Guérin, vous êtes doctorante en sociologie économique au laboratoire Pacte de l'Université Grenoble. Bonjour.
Bonjour.
La question, c'est que MaPrimeRénov' est victime de deux choses. D'abord, on a eu la censure, les guichets étaient fermés.
Éric Lombard, ministre de l'Économie, le 5 juin.
Et donc, quand on a rouvert, parce que le budget a été voté, il y a eu une avalanche de demandes. Donc, les agents qui s'en occupent sont simplement débordés. Il y a vraiment un encombrement. Et puis, un deuxième sujet, c'est qu'on a vu que le niveau des fraudes augmentait. Il y a 16 000 dossiers. Donc, il faut vraiment qu'on remette ça au clair. Quand un vélo a une pédale cassée, on répare la pédale et après, on repart. Donc, la ministre du Logement, Valérie Létard, prend ça très au sérieux. Elle met toute son énergie pour que cette période où on remet le fonctionnement au carré soit la plus brève possible. Et on espère le plus vite possible qu'on pourra réouvrir ce guichet.
1,3 milliard d'euros d'enveloppe consommée. Ce qui veut dire en clair qu'aujourd'hui...
Valérie Létard, ministre du Logement, le 5 juin.
Diverses communications ont été faites pour dire que nous allions suspendre MaPrimeRénov'. Un sujet sur lequel Je souhaitais m'exprimer pour expliquer comment, sur un dispositif qui, aujourd'hui, connaît un succès inédit, triplement des dossiers de rénovation d'ampleur depuis le début de l'année, aujourd'hui, nous avons 38 000 dossiers d'ores et déjà instruits et prêts à être mis en œuvre et financés, acceptés par MaPrimeRénov. Il y avait 11 000 dossiers de rénovation d'ampleur autorisés, engagés l'année dernière à la même époque. Aujourd'hui, nous allons continuer à instruire les dossiers jusqu'à la suspension qui aura été identifiée. D'ici au 1er juillet, nous allons suspendre temporairement MaPrimeRénov et non définitivement comme j'ai pu l'entendre, ou pour 6 mois, pour la reprendre mi-septembre.
Un succès inédit mais mis sur pause, voilà qui peut sembler contradictoire voire paradoxal. Mathieu Glachan, un premier point sur la situation que l'on connaît actuellement. De quoi le dispositif MaPrimeRénov est-il victime au juste? Comment comprendre cette suspension de votre point de vue?
D'abord, c'est pas la première fois qu'on a ce genre d'événement au milieu d'année. Il y a des changements. Celui-là est d'actualité, mais il faut toujours avoir en tête que ça arrive très souvent. Et ça arrive pas seulement à MaPrimeRénov, ça arrive aussi à un instrument dont on parle moins et qui est, contrairement à ce que vous avez dit en introduction, plus important d'un point de vue financier, qui sont les certificats d'économie d'énergie. Bon. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que si je parle juste de l'année dernière d'abord, c'est que l'année dernière, on s'est trompé en sens inverse, c'est-à-dire qu'on pensait faire 200 000 et on a fait 90 000, et donc on n'a pas tout dépensé. Et du coup, on est arrivé dans l'année, à mon avis, c'est mon interprétation, ceux qui pilotent ce dispositif sont arrivés un peu pessimistes sur les potentialités de succès de MaPrimeRénov et de la rénovation d'ampleur en début d'année, quand ils ont construit le budget. Tout ça, ça a arrangé aussi Bercy, compte tenu des contraintes budgétaires générales qui pèsent sur l'État français. Et voilà, ils ont calibré un système sur cette croyance qui s'est avérée fausse, c'est-à-dire une erreur finalement inverse à celle qu'ils ont faite l'année dernière. Et donc on a un pilotage extrêmement myope. C'est à mon avis ce qui explique ce qui se passe aujourd'hui.
Si on comprend bien, Louis-Gaëtan Giraudel, il n'y a pas tellement de quoi être surpris par une telle annonce.
En tout cas, effectivement, déjà début 2024, il y a eu une sorte d'interruption, une sorte de cafouillage, notamment sur les rénovations d'ampleur versus les monogestes. Et là aussi, il y a eu beaucoup d'instabilité. Et cette instabilité, qu'est-ce qu'elle crée? Elle crée de l'attentisme. Tout le monde, les ménages, se disent « je vais attendre que ce soit clarifié ». Les professionnels, parfois, les encouragent à ça. En tout cas, ils attendent aussi. Et cet attentisme, qu'est-ce qu'il a créé l'année passée? En fait, une sous-consommation des budgets. Parce que les gens attendaient. Sauf que maintenant, cette sous-consommation des budgets, on l'utilise comme argument pour dire « vous voyez, tout n'est pas utilisé, donc on peut réduire les financements ». Donc, il y a de toute façon beaucoup de cafouillage. C'est très pénalisable à l'ensemble de la filière. Et moi, je pense que j'y vois plus généralement quand même un reflet de l'instabilité politique plus générale. On a quand même eu 4 premiers ministres l'année passée. Je pense que ça se traduit par ce genre de choses.
Anne-Gaëlle Guérin, il y a eu tout de même cette idée qui a été répétée à l'envi, cette idée de MaPrimeRénov qui serait victime de son succès. Alors, je le disais en introduction, ce dispositif-là, il a permis depuis la mise en place le 1er janvier 2020 de rénover 2,44 millions de logements. Dans quelle mesure on peut véritablement parler effectivement d'un succès et à quoi est-il dû dans l'absolu?
Alors, la mesure dans laquelle on peut parler d'un succès, c'est quand même qu'il faut se rappeler qu'on est sur une politique publique, MaPrimeRénov, qui est très jeune. On parle de 2020. Et la politique de rénovation énergétique avant MaPrimeRénov, c'était une sorte d'amalgame d'instruments d'action publique variés, dont des dispositifs de financement qui n'avaient pas de pilotage unifié au niveau de l'administration publique. Et aussi qui était sur des montants bien plus faibles, excepté les C2E dont parlait Mathieu Glachan.
Oui, on a bien noté.
Voilà, on pourra y revenir. Ce qui se passe, c'est que donc 2020 MaPrimeRénov, qui en plus depuis 2020 explose en montant. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que c'est pas très facile pour l'État de distribuer de l'argent. Mettre en place une prime, ça implique d'avoir des logiciels qui fonctionnent. Des personnes pour instruire les dossiers d'aide, et on pourra y revenir, mais les dossiers d'aide MaPrimeRénov sont particulièrement compliqués parce qu'il y a une très forte exigence en fait de performance énergétique sur les logements. Donc il faut des personnes pour instruire, il faut des logiciels pour verser l'argent, il faut de la trésorerie qui en fait ruisselle des caisses de l'État vers les collectivités, vers l'ANA, vers les agences. Ça passe par les DDT dans certains cas. Donc là, l'explosion de MaPrimeRénov en montant, on peut expliquer les multiples cafouillages simplement par le fait que l'écosystème administratif n'était pas calibré pour verser cet argent.
Les DTT, ce sont Angel Gamin.
Direction départementale des territoires, merci.
C'était la colle avant l'heure. Coralie Robert, ce qu'on comprend, c'est qu'effectivement, l'idée d'un succès, mais en fait, d'un succès on va en parler plus tard dans l'émission, avec l'idée de l'efficacité, mais ce succès, c'est surtout l'afflux, effectivement, de demandes qui a engendré une forme d'embouteillage administratif. On le comprend aussi parce que le dispositif est très exigeant sur ce qu'il attend aussi de ces rénovations-là. De ce point de vue-là, encore une fois, ce n'est pas vraiment une surprise du fait qu'il y ait eu encombrement, mais dans quelle mesure ce succès, il est lié aussi finalement à une performance des acteurs qui se sont mobilisés pour faire en sorte que cela fonctionne.
Oui, tout à fait, parce que je rejoins le discours des autres intervenants sur la crise de confiance qu'il y a pu y avoir aussi sur ce cafouillage. Dans le sens, c'est une politique publique qui prend du temps. Il y a eu quand même des critiques régulières qui ont été émises sur les délais notamment de paiement ou les problèmes sur les dossiers non validés de MaPrimeRénov. Donc là, tous les acteurs de terrain ont retravaillé à construire une confiance locale, notamment à travers le dispositif d'accompagnateur Rénov, qui est un nouvel acteur en fait obligatoire aujourd'hui pour les rénovations d'ampleur. Donc ils ont construit progressivement, ils se sont stabilisés en tant que aussi acteurs professionnels parce qu'ils avaient des nouvelles missions, des nouvelles obligations. Donc c'est important aussi de montrer que tous ces acteurs ont travaillé à mettre en avant en fait toute cette qualité, parce qu'en dehors du nombre de rénovations, ce qui est important aussi, c'est de montrer l'importance du nombre de rénovations d'ampleur sur des passoires thermiques. Donc il y a vraiment un enjeu important en termes de qualité en plus de la quantité.
Le nombre de rénovations d'ampleur, je crois qu'on compte un peu plus de 333 000 rénovations globales. Louis-Gaëtan Giraudet, aujourd'hui, où en est-on? Parce qu'on a parlé de la très forte demande, c'est-à-dire le nombre de dossiers déposés, ce qui est un fait et on voit que ça a des conséquences. Si on doit tirer un premier bilan aussi en termes de succès mais d'efficacité des rénovations qui sont réellement réalisées, à la fois en termes de quantité mais aussi de qualité, quel premier bilan peut-on tirer?
Alors, disons que ça fonctionne assez bien là où c'est relativement facile, c'est-à-dire sur la maison individuelle et occupée par des propriétaires occupants. Donc ça, c'est un segment du parc qui est assez massif. Là, on a des montants qui sont conformes à ce qu'il faudrait et on a plus ou moins le taux de participation auquel on s'attendrait. Là où ça fonctionne, en revanche, beaucoup moins bien, c'est sur deux segments du parc qui sont très difficiles à atteindre, qui sont le parc locatif, c'est-à-dire tous les logements loués, et là, je parle du locatif privé, c'est-à-dire hors logement social, et tout l'habitat collectif, les copropriétés. Là, on a pourtant des subventions qui, en termes de montant, sont là encore plutôt bien calibrées, mais ça fonctionne pas. Les copropriétés et les propriétaires bailleurs ne passent pas à l'acte.
Et d'ailleurs, c'est intéressant, Coralie Robert, parce que cette suspension concerne les rénovations énergétiques globales et les travaux d'isolation et de remplacement de chaudières ponctuelles. C'est ce qu'on appelle la rénovation par le geste, mais pas les demandes d'aide dédiées aux copropriétés. Est-ce qu'on peut s'en réjouir dans le sens où le parc locatif est aussi largement concerné par le phénomène des passoires thermiques?
Oui, tout à fait. Après, l'habitat collectif, ça va concerner à la fois des propriétaires occupants et des bailleurs. Après, je pense qu'il faut s'en réjouir parce que la rénovation en collectif, en habitat collectif, est très, très longue. Donc, on est encore plus sur des délais. Vraiment, si on met un frein là même sur quelques mois, ça peut vraiment déstabiliser complètement un process de plusieurs années. Donc, on peut se réjouir à minima du maintien pour cet habitat collectif. Après, c'est sûr que le parc locatif privé a des contraintes encore plus fortes sur l'engagement dans de la rénovation et encore plus sur la mobilisation d'aides financière. On pourra revenir sur les différents freins, mais c'est vrai que c'est des temporalités qui sont différentes par rapport à de la rénovation dans son propre logement, puisque quand on fait des travaux chez soi, on a le temps de réfléchir, de se dire quand est-ce que c'est le meilleur moment. Quand on veut rénover un bien qui est loué, forcément, il faut essayer de trouver un moment le plus propice, et généralement c'est quand il y a un locataire qui part. Et ça, on a rarement un délai, une adéquation entre le temps où on est informé du départ du locataire et le montage de dossier qui aujourd'hui prend quand même généralement plusieurs mois, voire des fois plusieurs années.
Et on le comprend, ces questions de délai, finalement, sont au cœur aussi hein, de la problématique qui nous occupe aujourd'hui. Anne-Gaëlle Guérin, vous souhaitiez réagir?
Oui, en fait, je pense qu'on peut expliquer aussi que le dispositif n'ait pas été suspendu pour les copropriétés parce que l'un des arguments avancés par l'ANA, donc l'ANA, c'est l'Agence nationale de l'habitat, donc c'est l'agence du ministère du logement qui distribue MaPrimeRénov, c'est la quantité de dossiers frauduleux ou suspectés d'être frauduleux. Et en fait, ce risque de fraude, il est beaucoup plus conséquent sur le logement individuel où on a encore peu de professionnels qui gèrent les relations avec les artisans. Tandis que sur les copropriétés, alors effectivement, la prise de décision est beaucoup plus longue parce qu'il faut que tout ce monde-là se mette d'accord pour dépenser des sommes conséquentes dans la rénovation. Mais ensuite, en général, on est sur des entreprises plus grosses avec aussi des syndics de copropriété qui savent gérer, qui savent sélectionner les entreprises. Et donc, à mon avis, le risque de fraude du point de vue de l'ANA est aussi moins fort du côté des copros.
Grâce à cette connaissance, cette maîtrise de l'administratif aussi, entre autres. Alors, vous parliez du risque de fraude. C'est vrai que c'est un argument hein, qui a été avancé dans l'explication, en tout cas la justification de cette suspension hein, de MaPrimeRénov. C'est une justification sur laquelle insistait Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics, il y a 3 jours sur RTL.
Aujourd'hui, c'est pas un sale jour pour la rénovation énergétique. C'est pas une sale journée pour les Français qui veulent faire des travaux. C'est un sale jour pour les fraudeurs. Si le dossier a été déposé, il sera payé en juillet-août s'il est honnête. Et ensuite, ils peuvent déposer les dossiers, et je le dis à ce micro, jusqu'à la fin du mois de juin. Et à nouveau, à partir du 15 septembre, entre-temps, on aura fait quoi? On aura fait le ménage pour que les fraudeurs n'utilisent pas des dispositifs utiles, tout à fait nécessaire pour notre pays, à des fins qui sont du trafic, de la criminalité organisée. Et à nouveau, c'est pas des économies de bouche chandelle, ce sont des priorités que nous servons, et nous les servons avec sérieux. Je pense que les Français nous le demandent, et je le ferai, vous voyez, avec beaucoup de volontarisme.
Éric Lombard, ministre de l'économie, évaluait à 16 000 le nombre de dossiers suspicieux, soit 12% du stock. En 2024, un peu plus de 44 000 dossiers frauduleux avaient été détectés par l'Agence nationale de l'habitat avant leur mise en paiement, ce qui représentait 229 millions d'euros de fraude évitée. Mathieu Glachon, dans quelle mesure les évolutions même du dispositif sont liées aussi à ce risque de fraude? Et à partir du moment où on a compris que c'était une grande complexité administrative aussi, est-ce que tout cela finalement a créé une forme de cercle vicieux?
Bon, d'abord, l'argument de la fraude, il est pratique politiquement. Vous voyez que elle dit non, c'est une très mauvaise nouvelle pour les fraudeurs. Donc les grands perdants sont les fraudeurs et non pas les gens qui voulaient investir et qui se lançaient dans un programme de rénovation globale. Bon, donc c'est un premier point. Deuxième point, la fraude, ça existe dans plein de domaines de l'action publique. Je veux dire, la fraude à l'impôt sur le revenu, elle est très importante. J'aimerais qu'on mette en perspective ces chiffres aussi avec d'autres domaines de l'action publique, de distribution des subventions. Et d'ailleurs, j'ai pas de réponse à apporter à cette question, mais je pose la question. Troisième chose, les stop and go dont on parle. C'est tout d'un coup, on part en fanfare avec des gros volumes budgétaires. Ça, c'était début 2024. Des taux de subvention très élevés. Et puis ensuite, un an après, on arrête tout. Ce genre de stop and go, les go en particulier, les moments où tout d'un coup on ouvre les vannes, ça attire, c'est un peu comme le phénomène de la ruée vers l'or, hein, vous voyez, vous rappelez des romans de Jack London, où quand il y a une ruée vers l'or, il y a plein de gens qui arrivent, des gens plus ou moins honnêtes, hein, qui se battent, qui font un peu du n'importe quoi, et ces stop and go participent aussi, à mon avis, de cette fréquence de fraude.
Voilà. Et une forme de précipitation, on le comprend. Coralie Robert, je voudrais quand même insister sur cette question. Cette question de la fraude, elle est très difficilement mesurable. Il faut quand même le préciser. Ça reste compliqué à prendre en compte aussi. Mais dans quelle mesure, on le disait, hein, depuis 5 ans, il y a eu énormément de réformes, 14 en ce qui concerne seulement MaPrimeRénov. Mais on pourrait remonter encore plus loin et se dire que même dans la conception même de l'objet, tout n'est pas clair, tout n'est pas lisible. Ne serait-ce que d'un point de vue administratif, dans quelle mesure tout cela contribue aussi à augmenter le risque de fraude?
Oui, c'est sûr que la complexité, ça ne permet pas de faciliter de savoir si est-ce qu'on est en train de prendre le bon ou le mauvais chemin. Je pense qu'il y a aussi un découragement de la part des professionnels de terrain, hein, des acteurs, des artisans, notamment certains qui avançaient l'argent avec les retards de paiement eux-mêmes de l'ANA. Ils peuvent avoir eux-mêmes des problèmes de trésorerie. Hein, donc c'est aussi important de considérer qu'il y a aussi des fois des problématiques concrètes où tout ce, comme dit l'intervenant, de stop and go, où il va y avoir des fausses annonces ou des effets d'aubaine qui vont se créer, ça peut aussi se répercuter à tous les échelons et pas uniquement notamment les professionnels qui sont acteurs de la rénovation ou les accompagnateurs Rénov ou autres, ou France Rénov, mais aussi les artisans et forcément, a fortiori, les citoyens qui vont effectivement perdre confiance et qui vont plus forcément savoir si, si j'avance l'argent, si je m'engage dans cette démarche, est-ce que à la fin, je vais avoir l'aide ou pas? Est-ce que je dois me lancer maintenant dans les travaux ou pas? Voilà, il y a quand même beaucoup d'incertitudes aujourd'hui sur cette question-là.
La question de la fraude reste intéressante tout de même, Mathieu Glachan, parce qu'elle permet de prendre du champ et de se demander finalement quel mécanisme de contrôle existe et donc quelle gouvernance existe aussi, et d'aller au-delà de l'argument purement budgétaire dans l'absolu. On peut se demander aussi dans quelle mesure tout ce dispositif qui est mis en place permet vraiment à l'État d'exercer un contrôle, de savoir véritablement à quoi il s'engage, vers où il va. Est-ce que c'est pas ça aussi un des défauts de MaPrimeRénov?
Oui, enfin bon, il y a un job que j'aimerais pas avoir aujourd'hui, qui est président ou présidente, je crois que c'est une présidente, de l'ANA, donc l'Agence Nationale d'Amélioration de l'Habitat, qui avait un budget dans lequel, dans le périmètre, il n'y avait pas la rénovation énergétique, ils faisaient de l'amélioration des habitats dégradés, c'était leur job, et tout d'un coup, on leur a demandé de distribuer, donc, l'année dernière, on leur a demandé de distribuer au début 4 milliards, ils en ont distribué 2,3, etc. Et donc, faut voir le choc que ça a créé sur un système administratif, pour qui c'est une nouveauté. Bon, et au-delà du coup de la conjoncture, de l'épisode conjoncturel, ça quand même amène à penser que, encore une fois d'ailleurs, ce mot stop and go, je vais arrêter de l'utiliser parce que je n'arrête pas, mais c'est volonté de faire très vite, cette espèce de logique de la précipitation, elle met en tension et donc elle met dans la faute aussi ou dans les problèmes des institutions qui sont chargées de contrôler notamment la fraude.
Et je précise par ailleurs, parce qu'on parle d'enjeux de gouvernance et puis de présidence aussi, je précise que nous avons depuis hier un nouveau secrétaire général de la planification écologique, Augustin Augier, qui succède donc à Antoine Pellion, qui avait quitté ce poste en février dernier. Donc peut-être qu'on peut se dire que les choses vont peut-être gagner en clarté. Vous vouliez réagir, Louis-Gaëtan Giraudet.
Oui, je pense que sur la fraude, en fait, il y a deux choses très différentes. Et d'ailleurs, on ne sait pas vraiment à quoi fait référence le gouvernement dans sa communication, mais il y a clairement... ce dont on vient de parler, qui est une forme de banditisme, en fait, c'est-à-dire des fraudes basées sur l'usurpation d'identité, donc des entreprises qui n'existent même pas, qui truandent vraiment votre identité, qui essaient de capter l'argent de la subvention pour des travaux qui n'existent pas, qui n'auront jamais eu lieu. La réponse, forcément, c'est les services ministériels qui doivent être habitués à traiter ce genre de fraude. C'est vrai, comme Mathieu disait, fraude à la TVA, il y a eu la taxe carbone. Bon, bref, c'est vraiment de la fraude lourde. Et puis ensuite, il y a plus le problème de qualité des travaux. Est-ce que là, quand les travaux sont vraiment réalisés par des vraies entreprises qui existent, ils sont bien réalisés, conformément aux règles de l'art? Ça, c'est un autre problème avec des réponses politiques assez différentes. Et là-dessus, dans MaPrimeRénov, il est prévu que des bureaux d'audit viennent contrôler la qualité des travaux. Et en tout cas, il y a des systèmes pour ça.
Anne-Gaëlle Guérin, vous souhaitiez également réagir sur cette question-là du contrôle aussi de la qualité des services fournis.
Oui, j'abonde ce que disait Louis-Gaëtan Giraudet, c'est-à-dire que quand le ministre de l'économie parle de fraude, on ne sait pas très bien s'il parle de fraude, on va dire de fraude volontaire et cynique, ou de problèmes de qualité, de performance énergétique sur les dossiers. Et ça renvoie à un serpent de mer de la politique de rénovation énergétique, pour moi, que j'ai beaucoup travaillé aussi dans mon travail de thèse, qui est qu'on est de plus en plus soucieux de prouver que l'argent public sert effectivement à économiser de l'énergie. Alors, ça peut sembler très évident du point de vue d'un citoyen qui a envie de savoir à quoi sert l'argent qu'il donne à l'État. Mais en fait, premièrement, c'est récent, c'est daté. Ça date notamment de la réforme des finances publiques du début des années 2010. Et puis, cette idée de mettre un résultat chiffré en face d'une ligne de dépenses. Et puis, c'est pas facile à faire. Et effectivement, la stratégie adoptée, c'est de demander un audit énergétique avant chaque dossier MaPrimeRénov, mais l'audit lui-même est très controversé, les paramètres des formules de calcul, personne n'est d'accord, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Donc voilà, c'est une espèce de zone floue autour de la notion stricte de fraude.
Anne-Gaëlle Guérin, c'est intéressant, vous dites que finalement tout ça s'est mis en place dans les années 2010, il y a une sorte de prise de conscience. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment se cristallise finalement cette ambition que vous résumiez très bien, cette ambition de tout simplement mettre de l'argent sur la table pour entamer, on va dire, une véritable transition énergétique, écologique, environnementale?
Alors en fait, il se passe deux choses en même temps. Déjà en 2007, il y a le Grenelle de l'environnement. Donc c'est une grande concertation qui réunit des acteurs politiques, mais aussi des acteurs économiques et des acteurs de la société civile, notamment beaucoup d'associations environnementales. Et au moment du Grenelle, on fixe des objectifs chiffrés en termes de économie d'énergie, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans plein de domaines. Et ça, cette dynamique, on l'a gardée. Hein, aujourd'hui, on se donne des objectifs chiffrés. Au travers des, par exemple, des stratégies nationales bas carbone qui donnent un budget carbone à chaque secteur. Et en même temps, on a aussi donc une réforme des finances publiques qui dit que maintenant, on doit prouver la performance de la dépense publique. C'est-à-dire que vraiment, on a un budget de l'État qui est structuré avec une ligne, une mission et en face des indicateurs de résultats. Et ça, en fait, c'est nouveau. Et on voit bien l'idée démocratique derrière, hein, que l'État rende des comptes aux citoyens, mais c'est très compliqué à mettre en place et ça introduit cette charge de la quantification aussi. On rejoint la question de l'explosion de la charge pour les administrations finalement.
Mathieu Glachan, vous souhaitiez réagir sur cette question finalement de l'efficacité aussi qui est attendue.
Oui, je voulais ajouter un argument. Donc les arguments que vous venez de développer sont des arguments très transversaux. Et je pense qu'il y a un argument spécifique à la rénovation énergétique, que je connais assez bien, et Lou Gaëtan à côté de moi aussi. Et c'est qu'on s'est aperçu que par rapport à ce qu'on avait anticipé, les gains en termes énergétiques n'était pas au rendez-vous. On n'était pas à un niveau de qualité de la rénovation qui conduisait à des impacts aussi forts que ce qu'on espérait. Donc il y a toute une nouvelle vague de recherche auquel on participe tous les deux, par exemple, hein, c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure, qui essaie de quantifier les économies d'énergie réelles, sachant que l'action publique, qui effectivement avait besoin de chiffres, s'appuyait sur des économies d'énergie qu'il qualifie de conventionnelles. Et ce que la recherche montre, c'est que la rénovation énergétique conduit à des économies d'énergie réelles qui, en gros, sont à peu près la moitié de ce que prédisent les modèles qui construisent les économies d'énergie conventionnelles. Donc il y a une espèce de révision là, en ce moment des croyances qui conduit à d'abord être un peu plus pessimiste sur le potentiel de ce secteur à réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, et qui conduit à s'interroger du coup sur la question de la qualité des travaux, mais je pense qu'on va en parler énormément dans la suite de l'émission.
Louis-Étienne Giraudet, cette question est intéressante parce que, en fait, quand on entend à l'instant les propos de Mathieu Glachan, on peut se dire qu'il y a potentiellement deux problèmes. Il y a à la fois celui de savoir si c'est la modélisation qui s'est trompée, où on a mal évalué ce qu'il fallait attendre des dispositifs mis en place, ou si c'est tout simplement les moyens mis en place qui n'ont pas été satisfaisants, parce qu'ils ne sont pas suffisants, soit parce qu'ils ne sont pas suffisamment performants.
Voilà, tout à fait. Alors, sur cette question de l'écart et surtout de la mesure, donc là, je vais peut-être faire le pont avec les deux dernières interventions, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette culture de l'évaluation qu'on peut saluer qui est apparue et qui, on va dire, s'est basée un petit peu, qui a pris le problème par le petit côté de la lorgnette, en regardant quelles étaient les économies d'énergie réalisées par euros investis. Et là, d'abord, on a vu que c'était peut-être pas si rentable qu'on pensait, et en plus, d'autant moins quand on a réalisé, comme le disait Mathieu, que, en fait, les économies d'énergie, elles pouvaient être plus faibles qu'attendues. Ceci dit, donc là, ça a conduit à une révision pessimiste. Ceci dit, avec ce type de calcul, on a un petit peu le même problème, si vous voulez, qu'avec le PIB, qui mesure des choses, mais pas tout, loin de là. Et donc, il y a ce mouvement de révision un petit peu pessimiste du calcul de Cointable, mais il y a aussi un contre-mouvement qui consiste à élargir la focale, prendre en compte plus de bénéfices dans l'analyse, et là, on retombe à des niveaux de rentabilité qui, pour la société, sont tout à fait intéressants.
Mais Anne-Gaëlle Guérin, est-ce qu'on n'avait pas déjà ce problème-là ? C'est-à-dire, si on prend en compte davantage, c'est vraiment une question ouverte, hein, mais si on prend en compte davantage de facteurs qui peuvent permettre de calculer une forme de rentabilité, en tout cas de performance aussi de chaque euro investi. Est-ce qu'on n'avait pas déjà ce problème initialement avec MaPrimeRénov' notamment, mais de se dire qu'il y avait peut-être trop d'objectifs à coller à un seul dispositif ? Si là on élargit encore la focale, est-ce que ça ne va pas consolider le problème quelque part ?
En fait, il y a un peu deux questions. Il y a la question de réussir à quantifier ce qu'on va appeler les gains environnementaux et sociaux, pour outiller la prise de décision et pour alimenter, par exemple, nos travaux pour savoir quels sont les gains des rénovations. Et ça, en fait, on va construire des indicateurs qui seront jamais parfaits, mais les chercheurs savent les manipuler. C'est pas pareil quand ces outils qui sont construits à des fins d'analyse sont utilisés pour calibrer le dispositif public. Et notamment, là, c'est l'audit thermique, donc avec la formule de calcul 3CL. Je sais pas ce que veut dire l'acronyme, désolée.
On n'aura pas de traduction.
C'est une condition sine qua non à la distribution de MaPrimeRénov'. Et on a une explosion, enfin on parlait d'effet d'aubaine tout à l'heure, il y a les artisans, mais par exemple il y a aussi les auditeurs thermiques.
Tout
un écosystème de la quantification qui explose aussi. Donc il y a un peu deux choses différentes. La question c'est, on a besoin de ces indicateurs chiffrés pour prendre des décisions, mais est-ce qu'on est obligé d'être aussi fin dans ce niveau de détail de contrôle en fait de la dépense publique ?
Coralie Robert, vous souhaitiez réagir également ?
Oui, je rejoins en fait l'analyse de Louis-Gaëtan Giraudet sur les questions des autres indicateurs en sortant un petit peu uniquement de l'approche par les gains en termes d'efficacité énergétique. C'est aussi tous les autres gains qu'il peut y avoir, puisque la rénovation aussi, c'est des répercussions en termes de santé publique, de justice sociale, de souveraineté énergétique. Et je pense que c'est important d'avoir en tête aussi ces indicateurs plus qualitatifs, en fait, notamment l'amélioration du confort, du bien-être dans le logement, la sortie de la précarité énergétique pour certains ménages. Donc c'est, je pense, intéressant de se questionner sur ces indicateurs et le rôle qu'on leur donne dans cette politique publique.
Mathieu Glachon, sur ces indicateurs-là en particulier, et puis globalement sur cette question de la mesure aussi de cette efficacité.
Non, c'est clair que cet élargissement à la problématique, en particulier sanitaire, je pense au fait qu'il y a sans doute... je pense que ça peut se quantifier d'ailleurs, mais il y a des recherches dans mon laboratoire là-dessus. Et je pense qu'il y a sans doute des dizaines de milliers de morts par an en France qui meurent de froid l'hiver. Alors, ils meurent pas d'hypothermie en tremblant dans leur logement, mais simplement, ça augmente l'incidence des maladies respiratoires, etc. Et à partir donc des populations modestes. Et ça, c'est toute la problématique de la précarité énergétique, avec des bénéfices sanitaires, mais aussi des bénéfices de qualité de vie, de confort. On préfère tous être dans un canapé à 20-21 degrés plutôt qu'à 16. Voilà. C'est vrai que c'est très important d'élargir la focale à ces questions.
Et pour l'instant, cet aspect-là n'est pas suffisamment pris en compte, selon vous ?
Alors, à mon avis, dans l'action publique, il est pris en compte. C'est-à-dire que si vous regardez les taux de subvention de MaPrimeRénov', ils sont très différenciés en fonction du revenu. Si vous prenez aussi le système des C2E, des certificats d'économie d'énergie, il y a ce qu'on appelle les certificats standards classiques et puis les certificats précarité énergétique qui, là aussi, sont là pour cibler plus prioritairement les populations fragiles économiquement. Donc ça, c'est dans l'action publique. Par contre, la mesure de ça, etc., l'objectivation de ça, elle n'est pas encore, à mon avis, faite.
Voilà. Louis-Gaëtan Giraudet,
voilà, un chiffre, en gros, aujourd'hui, et ça, c'est France Stratégie qui a publié ses travaux il y a 3 ans. Aujourd'hui, si vous occupez un logement G+, c'est-à-dire vraiment les logements les plus dégradés, et que vous êtes dans les 30% de ménages les plus précaires, on considère que vous êtes exposé à un risque de maladie cardiovasculaire ou respiratoire. Il y a à peu près un risque de 1 chance sur 20 que ça vous arrive. Et malheureusement, quand ça arrive, dans 3% des cas, il y a un décès au bout. Et donc ça, on considère que le coût moyen pour la société de ces effets de santé, il est de 7 500 euros. Donc chaque année, en rénovant un logement de ce type, la société économise 7500 euros chaque année.
C'est chiffré, Coralie Robert. Est-ce que, de votre point de vue, là encore, ces chiffres-là, ils ont du mal à infuser, on va dire aussi, jusqu'à la prise de décision, ou en tout cas la justification de la mise en place de tels dispositifs? Et je vous pose la question parce que les enjeux de précarité énergétique, ce sont des enjeux que vous connaissez très bien.
Oui, mais j'allais rebondir sur la même étude, justement. Je pense que c'est important d'avoir en tête le coût de l'inaction, en fait, politique sur cette question de la précarité énergétique. Et on parle de santé physique, effectivement, mais il y a aussi toute la santé psychique qui est derrière la précarité énergétique. Le fait qu'il y a un isolement social très fort, le fait qu'on n'invite plus personne chez soi parce qu'on est dans un logement qui est indécent, on a honte. Les répercussions en termes d'éducation aussi pour les enfants, quand notamment il y a un usage limité de la lumière, une alimentation qui peut être réduite ou de moindre qualité parce qu'on n'a pas forcément les équipements ou l'énergie, enfin les moyens pour financer cette énergie. Donc il y a pas mal de répercussions à considérer qui dépassent la question environnementale et qui là vont plus sur une dimension sociale, de justice, justice sociale et environnementale. Donc je pense qu'il faut avoir toute cette focale en tête quand on parle de rénovation et notamment sur les ménages les plus précaires. Effectivement, aujourd'hui, il y a des dispositifs qui sont spécifiques avec des primes supplémentaires à MaPrimeRénov' pour les ménages en situation de précarité énergétique. Il y a aussi un dispositif d'accompagnement renforcé avec mon accompagnateur Rénov', pardon, renforcé, ça s'appelle. Aujourd'hui, sur le territoire, c'est pas si simple. Il n'y a pas autant d'acteurs qui sont labellisés. Il y a quand même des questionnements qui se portent sur ce dispositif depuis quelques temps auprès des acteurs professionnels de terrain. Donc, je pense qu'il y a encore du travail à faire sur cette question entre précarité énergétique et rénovation.
France Culture, entendez-vous l'écho? Alia Tovine.
Si on résume, si on essaie de rassembler tout ce qu'on vient d'entendre, Louis Gaëtan Giraudet, on comprend qu'il y a en fait beaucoup de facteurs. Il y a à la fois un très grand nombre de professionnels qui sont concernés, un très grand nombre de besoins aussi en fonction de où on place la focale, un très grand nombre de types de logements différents. Tout cela, ça produit donc une très grande diversité d'acteurs à prendre en compte. Dans quelle mesure c'est cela finalement qui pose problème en termes d'efficacité aussi de la dépense et de l'investissement? Je crois que vous parlez même d'un bien de croyance pour qualifier la rénovation énergétique. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Oui, un bien sur mesure. En tout cas, l'idée, c'est vraiment le mot-clé, c'est hétérogénéité. C'est-à-dire que le parc, il est extrêmement hétérogène. Il n'y a quasiment pas de logements qui se ressemblent en France. Et si vous en trouvez deux par chance qui se ressemblent, leurs occupants, ils ne se ressembleront pas. Donc vraiment, les situations sont extrêmement hétérogènes. Et ça implique qu'il faut une action très ciblée sur chaque... Il faut que l'action, voilà, elle soit sur mesure. Et qu'on définissent un montant vraiment spécifique à chaque situation, un montant d'aide. Et ça, malheureusement, un barème d'aide, un guichet d'aide comme MaPrimeRénov', il y a de la diversité, il y a beaucoup de barèmes différents, donc ça aide, mais c'est pas forcément suffisant. Ça reste pas assez personnalisé. Donc c'était quand même vraiment un progrès de MaPrimeRénov' d'avoir ces améliorations, notamment de différencier les niveaux d'aide par niveau de revenu. Mais c'est encore, si vous voulez, pas assez spécifique. Et donc, en fait, une autre implication de l'hétérogénéité, c'est que ben, finalement, il n'y a pas besoin d'aider tout le monde. Il faut juste identifier les bons logements à rénover, c'est-à-dire les passoires thermiques très dégradées, occupés par des ménages plutôt à bas revenus. Et donc, si vous voulez, cet effort d'identification que dans une note pour le Conseil d'analyse économique avec Gabriel Fac, on a appelé la démarche de « aller vers », elle s'oppose un petit peu à l'idée de juste ouvrir des guichets d'aide et attendre que les gens se présentent. On voit, ça peut créer une embolie. Alors que finalement, si on fait la démarche d'identifier les bons logements, on peut peut-être donner moins d'aide à un nombre plus restreint de ménages, mais ce sera des meilleures aides et pour la collectivité, ce sera plus efficace.
Mais dans ce cas-là, la question se pose, elle est un peu fondamentale, Anne-Gaëlle Guérin, c'est pourquoi avoir fait ce choix? Pourquoi avoir fait ce choix de passer par ce guichet d'aide? Pourquoi avoir fait ce choix de procéder par l'incitation financière plutôt que par la fiscalité, par exemple? Qu'est-ce qui a présidé à ce choix-là?
Alors, l'incitation financière par la prime plutôt que par la fiscalité aussi peut être une incitation financière. Déjà, c'est un choix récent. En fait, historiquement, on avait une incitation fiscale qui s'appelait crédit d'impôt développement durable, puis crédit d'impôt transition énergétique. On avait donc toujours notre fameux système des C2E depuis 2005. On avait on a toujours en fait une autre incitation fiscale qui est la TVA à taux réduit pour les travaux de rénovation énergétique. Et on avait à l'échelle nationale une prime, ça s'appelait Habiter mieux. Et c'était ciblé uniquement sur les ménages dits modestes et très modestes. Donc ça, c'est l'ANA qui définit des catégories de ménages. Ça, c'est à l'échelle nationale. Ensuite, à l'échelle locale, on avait des primes décidées par les collectivités. Et ce qui se passe, c'est que à partir de 2016-2017, le ministère du Logement et le ministère de l'Environnement se rendent compte qu'ils ont beaucoup de mal à piloter. On avait déjà cette petite musique de la fraude sur le crédit d'impôt qui était, je pense, encore plus importante en fait qu'elle l'est aujourd'hui sur ma prime rénov. Enfin, je veux pas dire la fraude, mais la petite musique était plus forte sur la fraude sur le crédit d'impôt. Et c'est ça qui préside à créer ma prime rénov qui fusionne tout, entre guillemets. Et en fait, c'était assez inédit de créer une prime incitative. Il n'y a pas beaucoup d'autres secteurs où l'incitation financière prend la forme d'une prime, de l'argent qu'on va verser sur un compte en banque.
Mathieu Glachand, de ce point de vue-là, c'est la révolution. Quand cela arrive, ça bouleverse véritablement tous les acteurs du secteur.
Quoi, l'arrivée d'une... Ah oui,
c'est la prime.
Moi, je ne trouve pas, parce que les C2E, depuis 2004, versent des subventions à l'investissement sur le modèle MaPrimeRénov. Donc, ce n'est pas fondamentalement nouveau. Ça prend des formes différentes, mais ce n'est pas fondamentalement nouveau. Je voudrais revenir quand même sur l'alternative entre fiscalité et subvention. Sur le dossier, la fiscalité sur l'énergie, donc l'idée, c'est de rendre plus coûteux l'énergie ou alors de subventionner les travaux d'économie d'énergie. L'intérêt de la fiscalité sur l'énergie, c'est que on récompense un résultat, l'économie d'énergie réelle, ok ? Alors que avec MaPrimeRénov, on subventionne un moyen pour atteindre le résultat. Or, ces moyens sont très, très compliqués. Là, je reviens sur ce qu'a dit Louis Gaëtan il y a 3-4 minutes. On est sur du sur-mesure. Et donc, dès qu'on veut subventionner intelligemment ces résultats, ça produit des systèmes extrêmement complexes. Alors, Louis Gaëtan, tu as eu l'air de suggérer qu'on n'était pas allé peut-être assez loin dans la différenciation et dans le fine-tuning de l'action publique MaPrimeRénov. Par ailleurs, tu connais l'argument qui est de dire que c'est une usine à gaz, c'est très très compliqué, etc. Et c'est pour ça qu'il y a aussi d'ailleurs des fraudes, donc c'est assez compliqué. De ce point de vue-là, la fiscalité sur l'énergie a cette simplicité de cibler le résultat. Et puis, elle a un gros inconvénient, c'est l'acceptabilité sociale. Bon, les gilets jaunes, ok, bon, voilà. Et donc, du coup, je pense que derrière ce choix, il y a d'abord un choix qui est un choix d'acceptabilité politique. Même si, bon non, moi j'ai arrêté de parler des C2E, mais même si les C2E sont financés par une augmentation des prix de l'énergie. Donc, en cachette, en fait, ce qui se passe...
Oui, quelque part, par voie détournée.
C'est qu'on utilise les C2E pour augmenter le prix de l'énergie de manière indirecte et de créer une espèce de pseudo-taxe. Enfin bon, je ne veux pas rentrer trop dans les détails de ces dispositifs.
Louis Gaëtan Giraudet.
Oui, alors c'est vrai que moi j'ai peut-être le même biais d'économiste que Mathieu, à savoir qu'on va considérer que ce qui a précédé ma prime rénov, que ce soit le crédit d'impôt pour la transition énergétique ou les certificats d'économie d'énergie, tout ça, c'est un petit peu des subventions et que MaPrimeRénov est venue consolider tout ça, faciliter aussi un petit peu parce qu'en donnant directement l'argent, alors que crédit d'impôt, c'était juste à la fin de l'année quand vous faisiez votre déclaration, vous aviez un petit bonus. Mais bon, là, maintenant, vu les délais pris par MaPrimeRénov, finalement, le délai de paiement, il est encore plus long qu'avec le crédit d'impôt. Donc, on va dire que c'était la même chose. Et ça existe en fait depuis 2005, le crédit d'impôt, ensuite 2006, les certificats d'économie d'énergie. Et donc, naturellement, je pense, comme l'a dit Mathieu, on le fait pour des raisons d'acceptabilité politique. C'est-à-dire que tout le monde, c'est plus facile politiquement de faire des subventions que des taxes. Pour autant, il y a quand même des bonnes raisons de préférer les subventions aux taxes dans ce cas-là. Notamment, l'avantage principal des subventions, c'est qu'elles réussissent à embarquer plusieurs problèmes en même temps.
C'est-à-dire ?
Eh ben, c'est-à-dire, si vous avez besoin de réduire les émissions, la taxe carbone pourrait le faire elle aussi, comme la subvention. En revanche, si en même temps vous voulez améliorer la santé des ménages, si vous mettez une taxe carbone, vous allez renforcer la précarité énergétique. Donc de ce point de vue-là, la subvention, elle résout les deux problèmes en même temps quand la taxe carbone va en fait aggraver le second. Pour autant, les subventions, ça reste un outil de financement. Ça envoie un signal prix. Or, il se trouve que les déterminants fondamentaux de la décision de rénover, ils sont pas du tout uniquement financiers. Et typiquement, une bonne occasion pour rénover son logement, c'est quand vous êtes un couple, vous avez entre 25 et 40 ans, des enfants en bas âge, vous vous emménagez dans un nouveau logement. Là, c'est une occasion majeure pour rénover. Et ça, la subvention, elle va peut-être vous aider à changer un petit peu votre décision, peut-être à investir plus que prévu, mais elle ne va pas changer beaucoup. C'est vraiment un déterminant fondamental lié au cycle de vie du ménage. Et donc, ce n'est pas juste en ouvrant un guichet d'aide que mécaniquement, les gens vont se précipiter pour la rénovation. Bon, là, on a de l'embolie parce qu'il y avait aussi des dossiers arriérés, mais voilà. Il faut aussi capter ces occasions, ces opportunités dans le cycle de vie du ménage.
Toute la question, c'est de savoir si l'incitation financière, si la subvention vient véritablement modifier le comportement des individus, des ménages. Vous l'avez dit à l'instant, il y a des facteurs beaucoup plus structurels, on va dire des choix de vie aussi, qui jouent énormément. Mais tout de même, on s'est rendu compte, à l'occasion notamment de cette suspension de MaPrimeRénov', que certains ménages étaient quand même lourdement impactés.
Des combles à la cave, Stéphane Albert a tout isolé et remplacé la chaudière fuel par une pompe à chaleur. Ancienne passoire thermique, la maison est désormais en catégorie C, bien plus économe en énergie.
Pour une maison de 100 mètres carrés, ça me coûte 200 euros par mois. Voilà, sur un appartement qui était à peu près de la même taille, j'étais au double, voire au triple.
Au revoir.
Des travaux de 95 000 euros, financés à 40% par la prime Rénov. Une subvention indispensable pour ce propriétaire.
Si j'avais pas eu l'aide, j'aurais remis en cause le projet, l'achat de la maison et le projet de rénovation de cette maison. Oui. Peut-être que je serais obligé peut-être demain de louer. Et si mon bien il est mal classé, je ne pourrais pas le louer.
Problème, le dossier est validé depuis octobre. Mais les 42 000 euros promis n'ont toujours pas été versés.
C'est stressant hein, déjà de ne pas avoir ces règlements, parce que c'est quand même des sommes assez importantes. On s'est engagé auprès des banques à rembourser des prêts. Et aujourd'hui, quand on est à 6 mois de délai, tout le monde commence un petit peu à s'impatienter. Les banques appellent, nous contactent régulièrement pour savoir où en est le règlement. Et tout le monde dit qu'on n'a toujours pas été réglé.
Un reportage diffusé dans l'émission C'est dans l'air le 9 juin dernier. Alors on l'a dit, hein, depuis le début de cette émission, le maître mot c'est celui de l'hétérogénéité, de la très grande diversité des acteurs, de leurs objectifs aussi, de ce en fonction de quoi ils réagissent aussi, ce qui peut les inciter. De ce point de vue-là, Coralie Robert, est-ce qu'il faut faire une distinction peut-être aussi entre le niveau de revenu des ménages, où les ménages ne cherchent pas la même chose au même moment en fonction de leurs revenus, et puis encore une fois, opérer cette distinction entre les ménages qui sont ou qui vont devenir propriétaires, et puis l'immensité du parc locatif et des logiques très, très différentes aussi qui le sectionnent ou en tout cas le hiérarchisent.
C'est certain, les motivations pour engager des travaux de rénovation énergétique qui peuvent être vraiment multiples, que ce soit au sein des propriétaires occupants qui... Moi, je rejoins effectivement l'analyse où c'est vraiment dans les moments de mutation, d'emménagement, déménagement ou de changement de configuration familiale qui aident souvent des projets d'amélioration, entre guillemets, du confort de l'habitat. Mais on va avoir aussi des stratégies qui sont très différentes quand on parle du parc locatif privé ou même au sein des bailleurs. On n'a pas une image uniforme d'un propriétaire bailleur. On a dépassé hein, aujourd'hui l'image du petit propriétaire bailleur qui aurait un ou deux biens et qui se serait sacrifié toute sa vie, même s'il y a encore des profils comme ça. Mais aujourd'hui, on est sur des profils beaucoup plus diversifiés avec des stratégies d'investissement, d'entretien du bien ou d'amélioration de la qualité énergétique qui peuvent vraiment varier. Donc c'est important, je pense, de questionner effectivement les différentes motivations pour avoir des argumentaires qui répondent à chaque motivation, à chaque individu, parce qu'on parle de diversité, d'hétérogénéité des biens, hétérogénéité aussi des propriétaires ou des occupants, mais aussi l'hétérogénéité des devenirs, je pense, de ces biens en fonction de qui les détient à tel moment. Donc c'est vraiment important, je pense, d'avoir des réponses qui soient effectivement adaptées, même si quand on parle de massification, le sur-mesure est toujours compliqué à déployer.
Anne Galguérin, on a parlé d'incitation, alors qu'elle soit fiscale ou par la subvention. On pourrait aussi parler de la contrainte, c'est une des armes qui est à disposition, et je pense notamment évidemment à l'interdiction tout simplement de louer des passoires thermiques. Est-ce que ça relève d'une forme d'efficacité un peu supérieure? Pourquoi ce n'est pas davantage... je vois l'argument venir, celui de l'acceptabilité encore une fois, mais tout de même ça reste une option.
Oui, en fait c'est une option. Alors c'est intéressant parce que c'est ce qui se passe en fait dans le secteur de la construction neuve, où on réglemente la qualité pour le coup uniquement environnementale et énergétique des bâtiments par la réglementation. Donc ce sont les réglementations thermiques puis les réglementations environnementales. Ce n'est pas le choix qui a été fait dans le secteur de la rénovation. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, pour un certain nombre d'acteurs, notamment associatifs, qui sont vraiment très actifs aussi dans le portage de la politique publique, hein, parce que quand on parle des guichets depuis tout à l'heure, c'est aussi à ce monde associatif-là qu'on fait référence. Pour eux, l'incitation, c'est en attendant, en fait. En attendant que, alors en attendant la révolution, ou en attendant qu'on mette une obligation, ou en attendant des investissements beaucoup plus massifs. Et ce « en attendant » a failli arriver. En fait, au moment donc de la Convention citoyenne pour le climat, en 2020, a été mis sur la table l'obligation de rénover les passoires thermiques par les bailleurs. Et en fait, le Conseil constitutionnel, alors c'est pas allé officiellement devant le Conseil constitutionnel, je crois, mais le Conseil constitutionnel a fait savoir à l'ANAH que ce ne serait pas possible en vertu du droit à la propriété. Et c'est pour ça qu'on a adopté, alors l'ANAH a adopté ce moyen un peu détourné d'interdire l'allocation des passoires, donc des DPE G et F, ce qui a provoqué d'ailleurs une petite panique sur le marché de l'immobilier, c'était en 2022, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, aussi pour des raisons juridiques de la finalement l'image de l'économie et de la propriété qui sont inscrites dans notre constitution aujourd'hui, on n'arrive pas à aller vers ces solutions en matière de rénovation.
Louis Gattin, j'ai rendez-vous, souhaitez réagir et puis Mathieu Glachon juste ensuite.
Ben, en fait, là, c'est typiquement un exemple où on a commencé par l'incitation pour la rénovation énergétique parce que politiquement, c'était plus acceptable. Et puis, il y a un moment où on sent que ça coince, que ça ne suffit plus et on est obligé de passer à quelque chose de plus réglementaire. Et là, on l'a fait justement sur le parc locatif, parce que, comme je l'ai dit, c'est là où vraiment les freins sont les plus importants, et donc on n'y arrive pas. Et donc, cette interdiction de mise en location des passoires thermiques, justement, c'est une mesure qui, de fait, s'appuie sur la mutation, puisqu'elle s'applique lors du renouvellement d'un bail. Donc, elle est censée permettre de capter ce moment opportun de rénovation. Donc en cela, elle complète un peu bien les incitations, puisque de toute façon, le propriétaire qui veut faire le travaux, il peut demander des aides. Mais donc, elle a cet aspect un petit peu non pris, non financier, de capter l'opportunité. Après, il y a évidemment des effets de bord, comme on dit, sur les marchés immobiliers. C'est pour ça que l'idée, c'est d'annoncer très longtemps à l'avance l'échelonnement du dispositif. Et c'est pour ça que là aussi, il faut veiller à ne pas remettre en cause ce calendrier.
Mathieu Glachon.
Oui, enfin, c'est un bémol. Sur le principe, c'est clair que c'est un instrument qui est complémentaire avec le reste parce qu'il cible effectivement d'abord le logement locatif avec ce problème qui est que sur le marché de la location, c'est le propriétaire qui investit, mais ce n'est pas lui qui récupère le bénéfice de ses investissements puisque c'est son locataire qui paye les factures. Donc, ok, sauf que le système, il a été mal calibré, puisque ce qui est en train de se passer, c'est que cette loi n'est pas respectée. Donc, les chiffres ne sont pas encore en train de circuler, mais ils vont pas tarder à circuler. On est censé avoir interdit à la mise en location, depuis le 1er janvier 2025, il y a 6 mois, les passoires thermiques G. Je suis persuadé qu'il y en a, mais une quantité effroyable qui sont mis à la location, parce que on a fixé un calendrier qui était trop serré. Bientôt, ça va être le cas en 2028, dans quasiment demain, dans 2 ans et demi, des passoires F. Donc il y a un problème de calibration de cette politique. Je pourrais revenir, moi, sur la question d'un autre instrument, la subvention. Allez, je trouve que, depuis le début, nous parlons quasiment exclusivement en matière de cible de la politique publique, nous ne parlons exclusivement quasiment que des acheteurs de rénovation, c'est-à-dire des propriétaires des logements en question qui font rénover, etc. Mais parlons un petit peu aussi des vendeurs de rénovation, donc les artisans. Le logiciel de la politique française actuelle, c'est on met des contraintes ou de l'argent, des subventions, sur la demande, les acheteurs de rénovation, et puis derrière, l'offre va suivre, ils vont arriver, ils sont en face une clientèle qui est devenue solvable, etc., et tout va bien se passer. Or, ça ne se passe pas fondamentalement bien. Pourquoi ne pas non plus avoir une partie de la politique publique qui cible beaucoup plus l'offre? Pourquoi ne pas avoir des subventions aux artisans vertueux? Je cite juste un exemple, le label RGE, donc, pour que...
Reconnu garant de l'environnement.
Oui, donc... Les artisans, pour que leurs clients puissent bénéficier de MaPrimeRénov ou des primes C2E, doivent avoir été certifiés, réputés garants de l'environnement, ce qui nécessite de suivre une formation qui permet, a priori, de leur apprendre ce que c'est la qualité en matière de rénovation énergétique, de les faire monter en compétences. L'analyse est faite que cette certification RGE est très laxiste, c'est-à-dire que la formation en question, il faut juste qu'il y ait un employé de l'entreprise qui y aille, etc. Bon, bref, je vais pas faire la liste, mais il y a une espèce de consensus que l'exigence est trop faible, il n'y a pas d'examen, etc. Pourquoi ne pas utiliser une partie des milliards qu'on déverse dans MaPrimeRénov, quelques dizaines de millions, voire des centaines de millions, pour aller subventionner des certifications RGE, mais qui seraient des certifications RGE de qualité beaucoup plus exigeante. En tout cas, ayons aussi un peu plus de réflexion sur quelle action publique du côté de l'offre.
Ce qui pose effectivement la question de la politique de l'offre, et il y a effectivement un problème de ce côté-là. Louis Gaëtan Giraudet, sur 560 000 entreprises artisanales du bâtiment, seuls 63 000 disposent de ce fameux label RGE, reconnu garant de l'environnement. Alors, pourquoi un si petit nombre? Et puis pourquoi, effectivement, comme le soulignait à très juste titre Mathieu Glachan, pourquoi on se concentre sur une politique de la demande et pas nécessairement sur celle de l'offre?
Alors, moi, je sais pas, je ne ferai pas cette opposition si nette entre offre et demande. Mmh. Pour moi, enfin, les deux vont en même temps. Et simplement, je pense que, là encore, ce que je disais tout à l'heure, c'est que avec une politique mieux ciblée et non pas en faisant une nouvelle usine à gaz. Pour moi, l'usine à gaz, c'est ce qu'il y a actuellement avec MaPrimeRénov, où on ouvre des guichets, on attend que les gens se présentent et ils se présentent en masse, on est débordé. Là, c'est plutôt l'État stratège qui va de l'avant, qui identifie un nombre plus réduit de ménages où faut intervenir et qui identifie effectivement les bonnes entreprises qui sont capables de bien faire les travaux et qui les met en relation. Donc c'est vraiment l'État stratège qui va vers, qui s'implique et pas qui se laisse déborder en ouvrant des guichets.
Coralie Robert, il y a effectivement la demande, il y a l'offre également aussi. On essaie de trouver une issue aussi à ce débat et essayer de trouver des constructions possibles pour demain. Et c'est de comprendre un peu, avec toutes les failles qu'on a identifiées, les solutions qu'on pourrait mettre sur la table. Si on se concentre sur les bénéfices sociaux, quelle solution serait la plus adéquate? Est-ce qu'il y aurait effectivement une idée de cibler davantage, selon vous?
Oui, c'est une vraie question. C'est vrai qu'aujourd'hui, la moitié des passoires appartiennent aux propriétaires les plus riches, dans le parc locatif privé. Donc, il y a vraiment des enjeux de rénovation, je pense, des logements les moins qualitatifs et surtout occupés par les ménages les plus précaires. Aujourd'hui, il y a un phénomène qu'on appelle de rénoviction. Le risque avec cette rénovation, c'est que les ménages les plus précaires qui, du coup, quittent le logement et qui, potentiellement, de nouveaux ménages précaires pourraient revenir dans cette location. Suite à la rénovation, le prix du loyer peut augmenter et donc ces ménages les plus précaires sortir, en fait, de ce marché locatif et aller vers des biens soit de moindre qualité, soit clairement aller dans des biens qui sont plus avec des baux légaux, donc avec d'autres problématiques après d'accès aux droits. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette question aussi. Il y avait un outil qui est de plus en plus développé, qui est le permis de louer, qui permet d'avoir vérifier la conformité en fait, du bien en amont de la mise en location par les services généralement des communes, des acteurs associatifs du territoire, qui permettent justement d'avoir conscience en fait, de la qualité du bien. Parce qu'aujourd'hui, la loi, effectivement, moi je suis aussi curieuse de voir le nombre de logements en G qui sont loués ou le nombre de recours, parce qu'aujourd'hui c'est quand même au locataire de faire une démarche proactive pour aller contre le locataire, pour prouver que le bien ne respecte pas l'efficacité énergétique demandée. Donc je pense qu'il y a quand même des questions à se poser là sur l'application de la loi et les modalités aujourd'hui qui ont été choisies pour faire valoir cette politique publique.
Mathieu Clachon, mais vous avez 20 secondes parce que cette émission est en train de s'interrompre.
20 secondes. Je voulais aussi dire que du côté de l'offre, il y a une question de ressources humaines. C'est-à-dire que, en fait, vous interrogez les artisans, ils vous expliquent qu'ils ont beaucoup de mal à recruter. Il y a des problèmes de formation. Dans les lycées pro, ceux qui sont formés à ces métiers quittent en fait le secteur très rapidement. Et derrière, il y a des problèmes salariaux, en fait, parce que s'ils n'arrivent pas à recruter, c'est qu'ils veulent les recruter au SMIC, et que, compte tenu de la pénibilité des tâches, voilà. Bon, 20 secondes, je ne peux pas en dire plus, mais il y a toute cette question aussi
de la formation,
des salaires dans ce secteur.
Eh bien, merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à cette table ronde d'actualité qui est à retrouver sur le site d'Entendez-vous l'écho et sur celui donc de France Culture.